Bien, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Claude Blais, qui est philosophe de l'éducation et qui enseigne à l'Université de Rouen dans le département de la philosophie de l'éducation. Marie-Claude Blais est déjà venue deux fois dans le cadre du CEPEX, et donc elle nous fait le plaisir de jamais 203. Et elle a publié avec Marcel Gauchet et Dominique Ottavi « Pour une philosophie politique de l'éducation » et « Conditions de l'éducation ». Elle a par ailleurs publié en solo « Au principe de la République » et « La solidarité, histoire d'une idée », tous deux chez Gallimard. Alors aujourd'hui, Marie-Claude Blais nous parlera des transmissions familiales en interrogeant ce que l'on nomme assez fréquemment actuellement la crise de la transmission et de ses implications sur les phénomènes de l'éducation.
Merci Bernard. Et bonjour à tous. Alors je vais vous proposer une petite réflexion sur ces transmissions familiales. Sujet qui nous est venu, vous savez, je pense que nous travaillons à trois dans le cadre d'un séminaire au Collège des Bernardins, sur cette question de la transmission et de ce que c'est qu'apprendre. Et très vite, nous nous sommes aperçus qu'aujourd'hui, on était confrontés à ce que certains appelaient la crise de la transmission, ou une rupture dans la transmission. Si vous regardez les titres de livres, il y en a beaucoup qui tournent autour de ça. Panne de la transmission, crise, etc. Et par ailleurs, on sait quand même que l'un des facteurs, on l'a dit déjà dans nos livres précédents, des inégalités scolaires et des difficultés d'apprentissage de certains enfants, c'est que les familles ne transmettent pas les mêmes choses aux uns et aux autres. Et que les inégalités sociales qui perdurent à l'école ont probablement un lien avec le type de transmission familiale qui se fait. Et donc on s'est dit, il faut examiner cette question. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas des transmissions familiales? Ou bien il y a crise de la transmission et on ne transmet plus ni dans les familles ni dans l'école, ou bien il y a difficulté à l'école, mais les familles transmettent toujours. Bon, alors évidemment, je ne vais pas avoir une réponse tranchée à la question, hein, mais on peut avancer un peu dans l'analyse de ce qui se transmet et de ce qui ne se transmet pas. Et c'est un peu le but de mon exposé aujourd'hui. Ça va faire un peu scolaire ou universitaire, mais je vais commencer quand même par des petites précisions conceptuelles, parce que si on ne précise pas ce que l'on entend par transmission, étant donné que ce terme est très polysémique, on ne sait plus de quoi on parle justement, hein. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a l'impression qu'il y a des transmissions qui s'opposent aux transmissions familiales, qui passent par les pères. Par exemple, on a l'expression des pères, P-E-R-E-S, au père, P-A-I-R-S, qui laisse entendre que les transmissions se font à l'horizontale et pas à la verticale. Moi, je voudrais juste préciser un petit peu, parce que je pense que ça vaut le coup. Alors, je vais examiner, pour commencer, je ne vais pas être trop scolaire, j'espère, je vais examiner deux triades qui me semblent importantes. La première, c'est transmission, communication, socialisation. Et la deuxième, c'est transmission, tradition, traduction. Donc, le rapport de ce terme de transmission à deux autres concepts qui sont très proches et avec qui on a tendance à le confondre. Alors, quand on parle de transmission, est-ce qu'on parle de communication? Transmission, communication, socialisation, ma première triade. À l'époque de la Révolution française, et depuis cette époque-là, il y a un ingénieur qui a inventé le système de sémaphores pour transmettre des informations à distance, les informations de guerre. Et le système de transmission désigne donc, depuis cette période, tous les moyens de communication à distance. C'est-à-dire le transfert ou le transport de l'information dans l'espace, d'un lieu à un autre. Cette synonymie, transmission-communication, ne favorise pas l'examen d'un autre type de transmission, caractéristique celle-ci des sociétés humaines. Le transport de l'information dans le temps. Et donc je propose ici de distinguer la transmission en tant que transport de l'information dans le temps, de la communication ou transport de l'information dans l'espace. Même si dans les réalités, les deux se combinent. Car les animaux, je m'appuie ici sur Régis Debray, qui est arrivé à la même formulation que moi, les animaux communiquent, ils ne transmettent pas. Ils connaissent le message par signal, comme les communications à distance, non l'héritage cumulatif des traces. Donc, je propose de garder ce terme de transmission pour la communication dans le temps, et je voudrais préciser deux points, justement, à ce propos-là. Il y a transmission dans les sociétés humaines, et non pas dans les sociétés animales, parce qu'elles sont historiques, et que le transfert des acquis d'une génération à l'autre est, pour toute société, la condition de sa survie, dans le temps. Dans les sociétés traditionnelles, les rituels d'initiation marquent solennellement l'entrée des jeunes dans la communauté des adultes. En même temps que ces rites effectuent et signifient la corporation des nouveaux initiés dans le groupe, ils confèrent aux jeunes la responsabilité d'en assurer la continuité. Dans l'idée de transmission, il y a l'idée de continuité entre les générations. Et c'est proprement humain parce que c'est proprement historique. Le deuxième caractère de la transmission, c'est que la transmission est spécifiquement humaine parce que nous sommes des êtres symboliques, c'est-à-dire des êtres de culture, et que de ce fait, nous pouvons accumuler les productions collectives et nous pouvons donc les transmettre. Ceci, ça a très bien été formulé par un ethnologue qui s'appelle Michel Léris, et qui dit que le propre de la culture humaine, c'est justement de pouvoir thésauriser, grâce aux signes, aux symboles et aux outils, les acquisitions d'une génération et de les transmettre aux autres, de telle sorte qu'il y a une accumulation qui se fait. Et donc, dit Michel Léris, vous trouvez très facilement ces textes dans les traités d'ethnologie, si le sont d'ethnologie, traité d'ethnologie, je ne sais plus exactement. Le système symbolique est caractérisé par son caractère cumulatif. Les formes symboliques que sont les objets de culture constituent un héritage social. On va retrouver souvent cette notion d'héritage à propos de la transmission. Un héritage social qui est distinct de l'hérédité biologique. En tant qu'animaux, nous avons une hérédité, nous transmettons une hérédité génétique, mais c'est seulement en tant qu'être humain que nous transmettons un héritage symbolique. C'est parce que nous sommes des êtres symboliques. Et Régis Debray, auquel j'ai fait allusion dans son traité de médiologie, dit ceci, « Si l'homme est un animal qui a une histoire, la transmission non biologique, artificielle, de caractères acquis est l'autre nom de la culture humaine. » Autrement dit, nous transmettons parce que nous sommes des êtres de culture, d'histoire et de culture. Tout ça pour préciser par rapport à communication, parce qu'effectivement, les animaux communiquent. Alors, quid maintenant de la socialisation, le troisième terme que j'ai mis en regard. Vous l'avez vu en filigrane. Mais oui, c'est sûr qu'en ce dernier sens de la continuité, la transmission est sûrement un aspect de ce que l'on appelle, depuis Durkheim, la socialisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition que donne Durkheim de l'éducation, mais c'est vraiment la transmission par une génération adulte aux générations nouvelles des savoirs, des savoir-faire, des comportements, des outils, de la langue, etc., qui sont nécessaires pour assurer la survie de la continuité de la collectivité. C'est bien la fonction qu'on appelle socialisatrice de l'éducation ou socialisante, qui est une partie importante de ce qu'on appelle la transmission. Donc il y a un lien très proche entre socialisation et transmission, mais la transmission n'est qu'une partie de ce processus de socialisation, celle qui concerne le passage de relais entre les générations, celles dont sont responsables les parents, essentiellement, avant l'école et avec l'école, enfin, en lien avec l'école. Il y a peut-être abus à parler de transmission horizontale pour parler d'une autre force de socialisation très puissante qui est la socialisation des jeunes entre eux, la socialisation par les pairs. C'est pourquoi je voulais aussi préciser que la transmission était une partie de la socialisation, mais pas toute la socialisation. Car, et c'est ça qui crée des confusions quand on aborde ces questions-là, effectivement, la socialisation par les pairs ou par les moyens de communication de masse, ce qu'on appelle les masses médias, est une forme de socialisation, mais elle est, à mon sens, pas la transmission telle que nous avons à l'envisager ici. En revanche, il faudra aborder la nature, la véritable nature de cet obstacle supposé, parce que très souvent, justement, d'où le titre des pairs aux pairs, on dit la socialisation ou la transmission par les pairs fait obstacle à la transmission familiale. Et je crois que dans notre sujet, tout n'est pas encore élaboré, il faudrait continuer à travailler, mais il y a un gros travail à faire sur les obstacles potentiels de cette socialisation par les pairs ou par les médias face à la socialisation sous forme de transmission familiale. Est-ce que ça s'oppose ? J'en dirai quelques mots parce que j'ai trouvé des travaux sur la question, mais il y en a peu encore. Je pense que c'est un travail à explorer, ça. Mais en tout cas, cet obstacle, ce prétendu obstacle, est une partie prenante importante du sentiment de crise de la transmission. L'école dit, finalement, on n'arrive plus à transmettre parce qu'il y a trop de concurrence. Les médias transmettent, les enfants, les pères transmettent, la culture du groupe, etc., est plus importante que la culture transmise par l'école. Donc, il faut envisager cette question-là. Peut-on dire vraiment que nous sommes passés d'une transmission verticale à une transmission horizontale ou socialisation horizontale? D'où cet objectif que je me suis fixé, qu'on s'est fixé tous les trois ensemble, que reste-t-il aujourd'hui des transmissions familiales, donc des transmissions horizontales? Ont-elles totalement disparu et est-ce qu'il en existe encore? Verticales, pardon. Oui. Que reste-t-il de la transmission familiale verticale? Alors, deuxième triade, c'est un peu trop de préalable peut-être, mais je crois qu'il faut se mettre au clair. Transmission, tradition, traduction. Pourquoi j'ai choisi ces trois mots? Parce que le rapprochement des trois mots fait apparaître des spécificités qui sont intéressantes. J'ai vu qu'on avait une latiniste dans la salle. Les trois mots ont la même origine, en gros. Transmittere, tradere, traducere, c'est toujours quelque chose. Les trois termes sont quasiment synonymes. Ils désignent le transfert d'un ensemble d'objets d'un endroit à un autre. Dans l'usage courant, cependant, la tradition représente, on l'a dit, le patrimoine accumulé ou thésaurisé par les générations antérieures. D'où la connotation très conservatrice de ce terme de tradition. C'est tout ce qui a été accumulé, qui nous a été transmis. Alors que la transmission serait davantage le processus de transfert de ce patrimoine, l'acte de transmettre, celui qui serait en crise en ce moment-là, parce que la tradition, elle existe toujours. Il suffit d'entrer dans une belle bibliothèque, on voit que les trésors sont accumulés et conservés. Le patrimoine, il est toujours là. Mais l'acte de transmission, est-ce qu'il est toujours là? C'est la question. Et pourtant, si la transmission est garante de la continuité du groupe, elle n'est pas pour autant un travail de conservation. Le conservateur du patrimoine, c'est leur problème d'ailleurs en général, ne sont pas en premier lieu des transmetteurs. Même parfois, ils transmettent si bien, ils conservent si bien qu'ils font en sorte qu'on n'accède pas. Parce que si on y accède, on risque d'altérer les collections. Vous connaissez bien leurs problèmes. Entre l'ouverture et public et préservation, il y a des tirages. Donc la transmission n'est pas un travail de conservation, tout simplement parce que continuité ne signifie pas immuabilité. Dans toutes les sociétés, la continuité s'assure dans et par le changement. La culture, en tant qu'univers symbolique, de forme symbolique, n'est pas un patrimoine qui pourrait être transmis intact, tel qu'il était à l'origine, à l'identique. Il y a toujours reconstruction d'objets transmis. Et c'est ce qu'on voit dans tous les travaux, en particulier sur les transmissions de la mémoire familiale, c'est extraordinaire. Et effectivement, c'est jamais un espèce de, comment dire, de fétiche qu'on transmettrait absolument sans le transformer. Il y a toujours, donc, une certaine, c'est pour ça que j'ai mis traduction en regard, une certaine transformation de la transmission, de l'objet transmis. De même que la langue se transforme et s'enrichit sans cesse, les éléments de la tradition font l'objet d'une appropriation et d'une invention d'objets nouveaux à la faveur des événements dont la génération qui opère l'acte de transmission est témoin et acteur. Chaque génération transforme ce qu'elle a reçu en fonction de l'expérience qu'elle a connue. Ça, c'est très bien noté par un vieux sociologue qui s'appelle Maurice Halbwachs, qui a écrit un livre qui est toujours d'actualité, je trouve, qui s'appelle « Les cadres sociaux de la mémoire » en 1925. La tradition met en jeu la mémoire qui est toujours, dit Maurice Halbwachs, reconstruction rationnelle du passé à partir des éléments et des mécanismes actuellement présents à la conscience du groupe. Alors c'est pas étonnant que, pour venir plus proche de nous, que les générations qui ont connu des grands événements genre mai 68 transmettent en se réappropriant et transformant la tradition à la lumière de ce qu'ils ont pu connaître comme expérience forte et vitale. Les écritures saintes sont transmises à travers leur réécriture et leurs commentaires. La mémoire familiale est reconstruite à travers des récits choisis et une sélection de photos de famille qui présentent les ancêtres sous leur jour le plus flatteur et dans des circonstances édifiantes en général. La première communion, le mariage, la décoration, etc. C'est bien une reconstruction de la tradition. Donc, toute transmission obéit à une dynamique de déformation qui court toujours le risque de travestissement et qui donne parfois à penser, voilà où je voulais en venir, encore une fois, qu'il y a une crise de la transmission. Les choses se transmettent, mais altérées, transformées, réappropriées. Et ça, c'est vrai de la mémoire collective, c'est l'histoire des images et des photos de famille, c'est chez Halbwachs, mais c'est dit par les sociologues d'aujourd'hui. Évidemment, ça parle à tout le monde. On se fait un récit familial, un récit de notre histoire, de notre passé. Il faut ajouter que cette traduction, donc transformation, de la tradition est double. Elle se fait du côté de ceux qui transmettent, mais aussi de la part de ceux qui reçoivent. Il y a une double transformation dans ce qui est transmis. Alors là, vous le voyez très bien dans la tradition orale, et c'est encore un ethnologue qui s'appelle Jacques Goudy, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a travaillé sur des mythes et des récits de populations primitives. Et sur le mythe du bagré, il dit ceci. Le récitant du bagré est dans la situation à la fois de récitant et de créateur. Comme il ne peut se remémorer le texte exact mot à mot, il est en situation d'inventeur. De plus, ce qu'on lègue n'est jamais ce qu'on a décidé par avance. Le processus ressemble au dépôt d'un trésor qui est rarement ce qui sera reçu. Alors là, je disais à Bernard que il y a une fable que tout le monde connaît qui illustre très bien, très magnifiquement ce processus. Alors on va se payer le luxe de la lire. Il a accepté de la lire pour moi. C'est, vous la connaissez, la fable intitulée « Le laboureur et ses enfants ». Qui est très joli et qui va anticiper sur quelque chose que je vais dire après sur les transmissions familiales.
le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor.
Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer les transformations de la part de celui qui transmet et aussi de la part de celui qui reçoit. Ce qui, effectivement, est à prendre en compte si on veut être lucide sur ce qu'on appelle une crise de la transmission. Il peut y avoir transmission et des transformations. Cela dit, rien n'interdit de penser quand même qu'à certaines époques, on est peut-être en celle-là, ce fut le cas à la Renaissance, des révolutions scientifiques et culturelles bouleversent à tel point le crédit qu'une génération peut accorder aux acquis du passé que l'on observe quelque chose qui s'apparente à une rupture ou même à un refus de transmission. Alors c'est pour vous dire, là j'annonce un peu mon plan, qu'on va quand même pas éliminer la possibilité qu'il y ait, qu'on soit à une période, ça ne marche pas. Un peu plus devant, comme ça. Qu'on soit à une période où effectivement il y a quelque chose qui est... qui est de l'ordre du refus de transmettre ou du refus d'accueillir la transmission. Il ne faut pas totalement l'éliminer. Encore faut-il faire un point précis, donc ça va être ma première partie, de ce qui reste de cette transmission, et donc affronter ce qui semble relever de l'indicible, de l'impensable ou de l'insaisissable. Car le fait de la transmission résiste effectivement, malgré toutes les dénégations. Et au premier chef, il résiste dans les familles. Peut-être d'autant plus fort qu'il reste dans l'implicite. Notre objectif, donc, est dans le séminaire, dans notre travail en commun à trois, c'est de faire le pari du disciple, en ce qui concerne en particulier les transmissions familiales. C'est pour ça que je fais appel à toutes les bonnes volontés, parce que c'est une question de formalisation de ce qui y existe. Analyser ce que transmettent les familles, pourquoi, par quel canot, selon quelle modalité, c'est très subtil, c'est pas très facile. Je dois rendre hommage à des collègues belges qui ont travaillé sur les transmissions implicites, donc je donne leur nom, ils s'appellent Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet. Quelqu'un les connaît? Ils sont à Mons, oui. Et donc, ils ont très bien senti et perçu ce que l'on a tendance à oublier, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'ordre des transmissions formelles, explicites, etc. Cette fameuse culture, la princesse de Clèves, qu'on n'arrive pas à transmettre à nos enfants, mais qui est de l'ordre de l'implicite et qui se transmet réellement. On va analyser au risque de simplifier et en étant conscient des interactions entre les différents types de transmission. Ma première partie, ça sera quelle transmission familiale. J'ai fait un effort de classement, mais vraiment, vous me pardonnerez, parce que les choses se recoupent tellement que c'est très difficile de distinguer, mais il faut pouvoir séparer pour y voir plus clair. Alors, j'ai fait trois catégories, sachant que tout est interconnecté. L'une que j'appelle les transmissions psychiques, l'autre que j'appelle les transmissions morales, et par morales, j'entends pas seulement les valeurs, hein, mais j'entends aussi, et surtout d'ailleurs, les manières d'être, les comportements, l'aspect positif de la morale, les mœurs, hein, les façons de se comporter dans la vie. Et puis le troisième, c'est la transmission que j'appelle sociale et cognitive. Je n'ai pas réussi à distinguer les deux parce que je crois qu'elles sont très liées, là pour le coup. Alors, dans la transmission psychique, on va voir, mais je mets... alors, ça, c'est un sujet qui est extrêmement labouré par les psychiatres, essentiellement. Donc, j'ai une petite bibliographie que je vous transmettrai. Vous trouvez énormément de livres sur la transmission psychique. Il y en a un qui s'appelle « La transmission psychique », mais il y en a d'autres que je vais vous citer. Qui sont toujours le fait de psychiatres. Alors, c'est le nom, la généalogie, l'identité, l'amour, les modèles d'identification, etc. Tout ça, ça se transmet dans la famille. Dans la transmission morale, je mettrais plutôt effectivement les valeurs, le sens de l'obligation, mais aussi les attitudes devant la vie, le sens de la vie, par exemple, la foi, la religion, les croyances, les manières de faire, les manières d'être. On va retrouver là des choses que vous connaissez mieux parce qu'elles ont été travaillées par Bourdieu il n'y a pas si longtemps que ça, Bourdieu et Passeron, hein, dans un titre quand même significatif auquel on ne peut pas ne pas penser quand on travaille sur les transmissions familiales, les héritiers. Et puis alors, ce qui est le plus à travailler et qui moi me passionne parce que dans la réflexion sur l'éducation, on est confronté à ce type de transmission, sont les transmissions sociales et cognitives qui ont un impact très important sur les apprentissages et qu'on ne formule pas, qu'on n'arrive pas à formuler, on ne les repère pas, on ne sait pas très bien par où elles passent. Dans « Conditions d'éducation », dans l'article sur la famille que j'ai écrit, j'ai parlé d'un livre d'une sociologue qui s'appelle Annette Larrow, une sociologue américaine, qui dit que les enfants apprennent dans la famille le sens de l'institution. Et ils apprennent à s'adresser à des adultes, les yeux dans les yeux. Ça, c'est un atout pour la compréhension du sens des apprentissages et des savoirs fondamentaux. Et c'est sûr que ça s'apprend dans les familles. J'en reparlerai un petit peu. Là, je voulais juste présenter d'abord les grandes catégories que j'ai élaborées. Si vous m'en proposez d'autres, je serai contente parce que c'est vraiment un travail en gestation là, que je vous propose. Et puis, le deuxième point préalable, c'est aussi de se demander mais par où ça passe. Alors, j'ai dû intituler ça « Voie ou canaux de la transmission ». Et là aussi, justement, parce que c'est dans l'implicite, c'est très, très discret, très souterrain. Alors, on va dire, si on veut classer un peu, dans l'ordre de l'implicite, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'imitation. C'est rarement qu'on dise, voilà, écoute, regarde comment je me comporte, je me tiens bien à table, tu fais comme moi. Mais le processus de transmission, il se fait, et les bons ethnologues le montrent, hein, essentiellement par l'imitation. Par la imitation, il y a un mot qui est intéressant, c'est la familiarisation. Il est intéressant tout simplement parce qu'il veut dire tout ça. Hein, qu'il y a des choses qu'on apprend parce qu'on a une familiarité avec elles. Et bien la familiarité, c'est bien la famille qui la donne. C'est la racine du mot, c'est famille. Et on s'est familiarisé dans sa famille. Je pense aux jeunes filles, par exemple, qui sont familiarisées avec une manière de se coiffer, de se maquiller, de se faire belle, etc. Que d'autres n'ont pas, parce que leur mère n'ont pas ce comportement-là. C'est de la familiarisation implicite, c'est pas instinctif. C'est pas forcément l'imitation, mais c'est l'importance qu'on donne à certaines choses. Et puis, il y a un autre mot, pareil, qui est difficile à expliciter, c'est l'imprégnation. Il y en a encore un quatrième, c'est l'incorporation. L'incorporation de certains gestes. Quand, à force de les voir, c'est spectaculaire chez les enfants de voir comment ils reproduisent des postures, des gestes de leurs parents. Ce sont des formes de transmission. Par rapport à ces transmissions implicites, oui, j'avais mis aussi l'identification à des modèles, l'incorporation des rôles, des codes sociaux. Tout ça, vous voyez le nombre de mots pour dire des choses, pour décrire des choses qui sont très difficiles à décrire, en fait. Parce que ça passe pas par le langage, hein, c'est simple. Alors par contre, dans l'ordre de l'explicite, ben on a tout ce qui est de l'ordre de l'intervention délibérée. Alors ça, Bourdieu se régale avec soi, les injonctions normatives, hein, tiens-toi droit, lève la tête, dis bonjour à la dame, etc., etc. Hein, ça, c'est vraiment des interventions, des négociations et des persuasions clandestines, c'est-à-dire qu'on discute avec l'enfant pour lui faire acquérir un certain comportement ou lui faire faire une certaine chose, mais sans qu'il sache qu'on a l'intention de le faire. Hein. Je dis c'est clandestin parce que c'est jamais... je vais te convaincre que tu dois faire ça, mais on y arrive, hein, par la ruse. Les entraînements, les sollicitations, et mon petit chéri, je t'emmène au musée aujourd'hui, tu vas voir, c'est génial, il y a une expo, etc. Et toutes les stimulations que peuvent opérer les parents sur leurs enfants. C'est de l'explicite parce que les parents savent très bien ce qu'ils font, hein, quand ils transmettent ce genre de stimulation. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais c'est tout ce qui est de l'ordre du dialogue et des échanges affectifs avec les enfants. Et c'est ce qui, dans les analyses de l'inégalité scolaire, c'est effectivement ce qui manque prioritairement à certains enfants et qu'on ne peut trouver au début de la vie que dans la famille, évidemment. Les échanges, les dialogues et beaucoup, j'en parlerai un petit peu, les récits. C'est-à-dire, c'est dans la famille qu'on apprend le sens du récit. Pas seulement les récits de l'histoire familiale, mais aussi des contes, les choses qu'on nous raconte. Et il y a des familles où cet aspect-là manque un peu. Alors, je vais détailler un petit peu, si vous n'êtes pas trop fatigué, ces différents types de transmission. On va commencer par la transmission psychique, dont j'ai dit que c'était l'aspect le plus étudié. Donc, si vous avez du courage, vous allez trouver, dans le champ de la psychanalyse et des thérapies familiales, Bernard va peut-être le confirmer, en particulier chez les médecins ou les soignants confrontés à des pathologies scolaires, souvent, ces difficultés sont analysées en termes de défauts de transmission. Comme par hasard, c'est quand on parle de défauts que, contraste, on voit ce que serait qu'une vraie transmission. Et ça, vous le voyez vraiment. Moi, je me suis plongé un peu dans ces livres par nécessité professionnelle, et vous voyez que c'est très fort chez les psys, ça, le sentiment qu'il y a des transmissions familiales qui, si elles ne sont pas faites, provoquent des effets chez les enfants. Et des effets en termes, en particulier, de phobie scolaire, de difficultés à apprendre, etc. Ces médecins postulent que les processus de transmission à l'œuvre dans la famille et dans l'école peuvent s'étayer, mais qu'ils peuvent aussi s'annuler et atteindre la capacité de l'enfant à bénéficier des transmissions scolaires. Ils font ça à partir du constat du malaise profond de certains enfants. Par exemple, ces enfants très agités, dont certains ont pu dire qu'ils peinent à trouver leur place. Vous savez, les hyperactifs. Alors, analyser plus précisément ces transmissions-là, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors là, ma méthode, elle est simple. Je vais voir tous les psychiatres qui parlent de transmission familiale. Et je vois. Alors, le premier élément important qu'on trouve chez Didier Houzel, la transmission psychique, mais chez beaucoup d'autres, et encore une fois chez les ethnologues, un indianiste qui s'appelle Charles Malamud, que vous connaissez peut-être le nom, c'est la transmission de la vie. Parce que les ethnologues sont très concernés par ces rituels autour de la dette de vie, hein, ce que Charles Malamud appelle la dette de vie, et la soumission aux ancêtres qui s'ensuit. Le don de la vie, hein, appelé la dette de vie dans les sociétés traditionnelles, renvoie à l'énigme de la naissance et au paradoxe qui fait que le nouveau-né est à la fois objet et sujet. Et c'est ça aussi dans les rituels des sociétés traditionnelles. On a reçu la vie et en même temps on va devenir, on est objet, en ce sens on capitalise les désirs et l'histoire de ses parents, mais en même temps on devient sujet de son désir, conscient du don que l'on a reçu, conscient de la nécessité parfois de donner en retour. Alors, c'est l'idée de la dette, justement. Et tout ça, c'est formulé de manière, d'une manière ou d'une autre, d'une manière assez intéressante quand même chez tous ces psychiatres ou psychologues qui insistent sur le fait que, comme Freud, que le parent éduque l'enfant à partir de ce que ses propres parents lui ont transmis. Et ainsi de suite, en remontant dans la lignée. Donc, dans toute éducation, il y aurait une dimension répétitive et transgénérationnelle. Finalement, l'enfant est l'objet du désir de ses parents, comme l'a montré entre autres Marcel Gauchet, l'enfant du désir, mais aussi l'objet de ce que les parents eux-mêmes étaient du fait de leurs propres parents. Donc ça traverse les lignées, hein, d'où toute cette tendance généalogique maintenant dans les thérapies d'ailleurs. Je pense que c'est lié à ça. L'enfant demeure dans le parent tend à se reproduire dans l'enfant. Mais aussi, l'enfant est sujet, donc sujet de son désir, de sa pensée, de son histoire. Et c'est là ce qu'on peut appeler le paradoxe de la condition humaine, c'est que cette construction de l'enfant comme sujet, du nouveau-né comme sujet, ne peut se faire que dans une relation de dépendance à des partenaires adultes qui sont chargés d'apporter à cet enfant non seulement les conditions physiques de sa croissance, mais aussi les supports psychiques nécessaires à la construction de sa personnalité. Là, cette dernière phrase, je crois que je l'ai prise dans la transmission psychique de Didier Houzet, qui tourne autour de tout ça. Dans un autre registre, je vous conseille de lire la préface de Marthe Robert au conte de Perrault, je crois que c'est le conte de Perrault, c'est un texte qui s'appelle Les romans des origines, origines du roman, où elle parle du rôle de la sage-femme dans les contes. Et elle dit que les sages-femmes assuraient ce rôle-là de transmettre, donner la vie. Dit-elle, ce n'est pas seulement mettre au monde, mais c'est transmettre la connaissance des pratiques sociales et religieuses par quoi l'homme peut s'insérer dans l'ordre des choses et être vraiment à sa place. Vous voyez l'idée de place, ces enfants qui peinent à trouver leur place, c'est des enfants à qui on n'a pas transmis les moyens de s'insérer dans une histoire qui est l'histoire de ses parents, de ses ancêtres et d'une société qui a ses pratiques sociales et religieuses. Et elle analyse les contes et ce personnage, la sage-femme, de cette manière-là, ça m'a semblé intéressant. Je ne peux pas éviter de vous parler de Pierre Legendre, évidemment, qui a écrit un bouquin dont vous connaissez peut-être le titre, qui s'appelle « L'inestimable objet de la transmission ». C'est un livre important, difficile à lire, qui est paru en 1985. Chez Fayard, pour vous dire, je m'appuie sur Pierre Legendre pour prendre le deuxième élément important de la transmission, c'est tout simplement le nom, transmission du nom et de l'inscription dans une lignée, ce que Pierre Legendre appelle le principe généalogique. Alors, j'essaie de vous expliquer. Vous me pardonnerez si c'est pas très clair. Bon, pour moi, je l'ai compris en deux sens. Ce principe généalogique, c'est le premier sens, c'est que l'enfant ne peut trouver sa place dans le monde qu'en s'inscrivant dans un cadre anthropologique qui dépasse la dimension individuelle. On revient à l'histoire de la transmission de la vie. Mais là, c'est par le nom. Je te donne mon nom. Tu as une histoire. Qui est l'histoire de ta famille ou de la mienne, si je suis un homme et que je donne mon nom de père, ça peut être la mère, ça ne changera pas grand-chose, je crois. Alors, je vous cite une phrase de ce livre de Pierre Legendre. « Chacun naît objet capitalisé, image de quelqu'un. Chacun naît autre, radicalement autre. Nous naissons pour être d'abord cette chose-là, hors du commerce ordinaire et qui, avant d'être nommé et avant de tenter de vivre sa propre part de sujet, est d'abord la part pleine et entière des autres, de ces autres privilégiés, les parents, littéralement les reproducteurs, aux prises avec l'objet inconnu de leur désir, avec l'insaisissable d'une transmission. » Tout ce que l'on sait de cet insaisissable, c'est qu'il s'incarne et soutient la reproduction humaine d'une génération à l'autre. Alors, voyez le côté un peu crypté quand même du vocabulaire de le gendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux adjectifs qui sont associés à la transmission, à l'objet de la transmission, inestimable dans le titre et insaisissable dans le texte. Et je crois qu'au moins, rien que pour ça, on peut dire qu'il a perçu quelque chose qui est très très fort. Le fait de donner son nom, de donner un nom, de donner un prénom, aussi d'ailleurs, c'est faire porter à l'enfant, comme disent les parents, mais oui, il va porter toute sa vie quelque chose que je lui aurais donné, ben, si c'était que ça, si c'était que le prénom. Inestimable, parce qu'on ne sait pas la dimension que ça peut prendre dans le parcours d'un individu. Insaisissable, parce qu'on ne sait pas par où ça passe. Alors j'ai mis en langage plus simple, j'ai essayé de faire une traduction comme je fais pour mes étudiants, mais j'ai toujours peur de me tromper. Ce que veut dire le gendre, c'est que les parents eux-mêmes s'inscrivent dans une logique qui dépasse leur but individuel et leur plaisir personnel. Ils sont à l'intérieur d'un processus de transmission et chacun est objet, à la fois objet et sujet. Deuxième aspect de ce principe-là, alors moi, là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de solidarité, c'est en mon nom personnel que je l'ajoute. Ce que veut dire le principe de transmission, c'est que nous héritons de tous nos ancêtres. Et ça, c'est un terme très ancien et lancinant même, y compris dans la Bible, de ce thème de la transmission inconsciente. Alors on n'est pas, c'est pas implicite, c'est inconscient, mais c'est, vous voyez qu'on tourne autour des mêmes qualificatifs, des traits de caractère que nous avons reçus de nos parents et parfois de nos ancêtres. Alors la phrase de la Bible que j'ai trouvée et qui est magnifique pour ça, c'est une phrase d'Ézéchiel qui dit ceci: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont toutes gâtées. Ça résume le principe de ce que j'appelle, ce que d'autres au XIXe siècle sur lesquels j'ai travaillé pour faire ce livre sur la solidarité appellent la solidarité transgénérationnelle. Nous ne sommes pas seulement tributaires de nos parents, mais de toutes les générations qui nous ont précédés. Et nous héritons de certains traits de caractère de ces personnes-là. Un jour, j'ai trouvé dans un roman quelque chose de plus drôle, je le dis pour Bernard, l'héroïne rencontre un jeune homme, et puis, c'était un Normand, et elle dit, ses yeux étaient d'un bleu lavé par tous les calvados que ses ancêtres avaient bu.
Très bon.
Ah, ça n'avait rien à voir avec la solidarité, c'était une phrase d'un roman de Gare, mais comme quoi c'est quand même inscrit dans l'imaginaire collectif, nous héritons de traits de caractère très très lointains. Et c'est ce que les psychiatres savent bien, sans pouvoir souvent le formuler très précisément. Cet héritage reçu de nos ancêtres n'est pas toujours considéré dans ses dimensions funestes, hein, les calvas ou les raisins verts. Au contraire, au XIXe siècle, hein, à l'âge de l'ébranlement des appartenances et de la tradition, il fut appelé solidarité entre les générations, en particulier chez Auguste Comte, pour insister sur la nécessaire continuité des groupes sociaux, quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté un petit peu aujourd'hui. Et c'est cette fameuse phrase d'Auguste Comte que je vous rappelle quand même parce qu'elle est jolie: la société est composée de plus de morts que de vivants. Effectivement, si on remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, ça fait quelque chose. Et un livre que je vous conseille, qui est directement sur le sujet, dont je parle pas mal dans mon livre, c'est un auteur de la fin du siècle, Henri Marion, un grand pédagogue, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La solidarité morale » en 1893, et qui insiste justement sur ce fait de par exemple, les habitudes qu'on a acquises à travers nos parents, etc., les traits de caractère et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le voit pas du tout comme un obstacle à la liberté. On va arriver au point central, si on veut plus transmettre, en gros, c'est parce qu'on pense que ça limite la liberté des plus jeunes. Et il dit qu'au contraire, cet Henri Marmion, la prise de conscience de cette solidarité, de cette héritage donc, que nous avons reçu de nos ancêtres, accroît notre responsabilité. Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça nous permet de nous inscrire dans la chaîne des générations, l'expression « chaîne des générations » est de lui, et donc, du fait que nous savons que nous sommes responsables, nous sommes tributaires de ce qu'ont fait nos ancêtres, nous savons aussi que nous sommes responsables de ce que feront nos successeurs. Nous nous inscrivons dans une chaîne. Ça donne du sens à notre vie, accessoirement, mais ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Voilà pour la solidarité intergénérationnelle et cette transmission des traits de caractère ou de comportement. Alors, le grand point, je l'ai dit très vite, c'est la transmission de l'amour. Ça se trouve partout aussi. Et d'un amour inconditionnel, parfois nommé sollicitude. Alors, c'est un thème dont on pourra discuter, mais qui est souvent attaché à l'idée que l'on ne peut donner de l'amour que si l'on en a soi-même reçu de ses parents. C'est, je pense, qu'une des sources de cette idée très commune aujourd'hui, c'est la théorie de l'attachement, hein, Bowlby, 1973, l'idée que l'amour reçu, ce que Boris Cyrulnik aujourd'hui appelle les nourritures affectives, ça c'est intéressant l'expression nourritures affectives, ces nourritures sont, et l'amour qui, ont été, qui a été prodigué, sont la source de la confiance que les enfants peuvent avoir dans la vie. Donc, pour Boris Cyrulnik, la source, la condition de la capacité de résilience de ses enfants et la capacité de donner eux-mêmes à leur tour de l'amour. Donc là, on voit le fait de la transmission avec bon, tout le côté hypothétique, bien sûr, de tout ça, puisqu'on est dans l'implicite. Le troisième point important, c'est la transmission de la mémoire familiale. Et par là même, alors là, il y a des travaux très intéressants là-dessus que je vous conseille, de la mémoire collective, parce que les deux sont liés. Alors, bien sûr, il y a Maurice Halbwachs, c'est le premier à avoir travaillé là-dessus, et c'est pas pour rien qu'un sociologue s'intéresse aux cadres sociaux de la mémoire et à la mémoire familiale, mais l'auteur d'aujourd'hui, qui est la plus... spécialisée dans ces questions-là, c'est Anne Muxel, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Individu et mémoire familiale », qui montre bien que transmettre la mémoire familiale, comme ça se fait dans certaines familles, et peut-être pas dans toutes, c'est transmettre aussi la dimension du passé et la dimension de l'inscription du présent dans un futur. On revient toujours à cette histoire de continuité. S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de capacité à trouver sa place. Et donc, tout ce qui est récit de famille et transmission d'une mémoire familiale contribue à la fabrication d'une histoire collective et donc l'insertion du nouveau venu dans cette histoire qui n'est pas seulement la histoire d'une filiation, mais une histoire globale, collective. Et alors, ce que montre celui qui a le plus travaillé là-dessus, c'est un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron, que vous connaissez peut-être de nom, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nos secrets de famille », qui est intéressant à ce titre-là, ce livre-là, parce qu'il s'intéresse justement à la transmission de quoi ? Pas la transmission de la mémoire familiale, à la transmission du trou familial, c'est-à-dire du non-dit, hein, parce qu'il y a aussi une transmission des non-dits. Des traumatismes non surmontés, des actes honteux, des interdits de dire et même de comprendre, et même, je le cite ici, de comprendre qu'il puisse y avoir dans une famille quelque chose qui fasse l'objet d'un secret. Et ce qui montre très bien, et on, là, enfin, je pense qu'on est assez nombreux à avoir vécu ça dans notre chair, c'est que les secrets de famille sont aussi parfois des secrets de l'histoire, des secrets collectifs, des choses qu'on ne nous a pas dit parce qu'on ne voulait pas nous les dire, parce qu'on avait peur que ça ou transfère une culpabilité ou au contraire un statut de victime, des traumatismes, etc. Et Tisseron dit la transmission peut alors être malade quand il s'agit de circonstances collectives au niveau d'un pays entier, comme le montre le cas de l'Allemagne de l'Ouest après la guerre. Il y a des traumatismes qui sont vécus par une génération et incomplètement symbolisés par elle. Ces événements n'ont pas reçu de forme verbale, de mise en forme, mais ils ont toujours, dit-il, été partiellement symbolisés. Si vraiment ils étaient totalement effacés encore, peut-être qu'on s'en sortirait, mais il y a toujours des symbolisations partielles sous la forme de gestes, d'attitudes, de mimiques, de silences, de propos énigmatiques, de colère sans motif apparent. Autant de choses totalement incompréhensibles pour les enfants. Les secrets de famille sont la cause de troubles affectifs qui se transmettent de parents à enfants, dit-il. Ils peuvent être aussi à la source de certaines difficultés de symbolisation qui se traduisent en une phrase « Je ne veux pas savoir ». Phrase qu'on entend beaucoup dans les écoles. Alors, entre les enfants qui ont du mal à trouver leur place et ceux qui ne veulent pas savoir, voilà, on a quelques approximations de ce qui se transmet ou ne se transmet pas dans les familles et qui peut avoir des répercussions sur, bien sûr, sur les apprentissages scolaires. Je passe au deuxième point, les transmissions morales. Je vais aller un peu plus vite parce que ça a été très, je vais dire, balayé. Par les sociologues, hein, vraiment les traits de caractère, les savoir-faire, les comportements, les habitudes, les valeurs. D'ailleurs, notre grand sociologue en la matière, Pierre Bourdieu, utilise les termes grecs qui sont déjà présents chez Platon. Lexis, hein. Exis, c'est l'habitude en grec, hein. Les schèmes incorporés ou les habitudes. On trouve ce terme chez Platon, chez Aristote. Pierre Bourdieu, dans le sens pratique et dans d'autres ouvrages, reprend ce terme en particulier en ce qui concerne ce qu'il appelle lexis corporel, qui est une espèce de mythologie politique incorporée, devenue une disposition permanente, durable, et qui a été transmise par les parents. Alors, on va faire rentrer donc dans cette transformation des comportements et des manières d'être tout ce qui est du ressort effectivement des habitudes ou des comportements qui ont été acquis souvent de manière volontaire et délibérée dans la famille mais qui ne sont pas transmis de la même manière par toutes les familles et qui parfois ne sont pas transmis. C'est donc lexis où on a un autre mot chez Bourdieu qui est lui issu du latin, c'est l'habitus, hein. L'ensemble des dispositions, schèmes d'action et de perception que l'individu acquiert à travers son expérience sociale. Sachant que la famille est la première expérience sociale de l'enfant, il acquiert aussi des habitus. Donc là, on est davantage dans le domaine de l'imprégnation ou de l'incorporation, puisqu'il s'agit souvent de gestes, hein, d'attitudes corporelles. D'ailleurs, Bourdieu parle de persuasion clandestine. Vous voyez, hein, symbole explicite, inconscient, clandestin, etc. Des valeurs, je le cite, des valeurs faites corps par la transsubstantiation qu'opère la persuasion clandestine d'une pédagogie implicite capable d'inculquer toute une cosmologie, une éthique, une métaphysique, une politique, à travers, ça c'est l'outrance de Bourdieu, des propos aussi insignifiants, des injonctions aussi insignifiantes que « Tiens-toi droit, ne mets pas ton couteau dans la main gauche. » Alors Bourdieu voit dans ces injonctions familiales extrêmement fréquentes toute une incorporation implicite de manière d'être, de manière de faire, qui transporte une politique, une morale, une éthique, une capacité à se maîtriser soi-même, etc. Autant de choses qui sont très positives, mais que lui, C'est là qu'on est obligé de se détacher de lui, parce que son analyse me semble très juste, mais il va transformer ça en violence arbitraire. Hein. Et bon, là, on ne peut plus le suivre, évidemment. Hein. Mais il y a effectivement incorporation de certains schèmes de perception d'action qui permet à l'individu de produire un ensemble de pratiques adaptées au monde social dans lequel il vit. On ne voit pas pourquoi on verrait tout de suite là-dessus une espèce de manipulation, de domination totalitaire, etc. Elles sont durables, effectivement, elles survivent au moment de leur incorporation, c'est ce que Bourdieu appelle le sens pratique. Elles survivent à leur incorporation, elles sont, dit Bourdieu, et là il a raison, transférables aussi, c'est-à-dire que les dispositions acquises au sein de la famille, tiens ton couteau dans la main droite, ça va se transférer sur des apprentissages scolaires. C'est-à-dire que ça va être le gamin qui va savoir tenir son crayon et qui respectera la marge aussi, parce qu'on lui a appris à se comporter. Donc, je crois qu'il faut reconnaître à Bourdieu d'avoir perçu ces petits gestes de la vie quotidienne, ces petites transmissions, qui ont effectivement des répercussions sur les savoirs que le gamin va acquérir par la suite. Hein. Alors, simplement, il dit que c'est le reflet d'un monde social qui est adapté à ce monde-là et que il est transmis par certaines classes sociales pour perpétuer une domination, bon, etc. Donc, il y a une violence symbolique qui s'exerce à travers ces incorporations. Si on laisse de côté de cela, moi, ce que je dirais, c'est que plutôt que d'un arbitraire culturel ou d'une violence symbolique, il s'agit là de la transmission de deux composantes essentielles de l'humain, de ce que c'est qu'être humain. Premièrement, la réflexivité, et deuxièmement, le travail sur soi. C'est ce que je dis un petit peu dans le chapitre sur les conditions d'éducation sur la famille. Je ne vois pas pourquoi on ironiserait sur ces... on le voit très bien, parce qu'il y a eu le travail de Foucault, il y a eu la critique de la domination chez ces sociologues, de la reproduction, mais ce n'est pas une raison pour évacuer totalement des dimensions anthropologiques indispensables, si on veut éduquer un être humain, c'est la dimension de réfléchir à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est quelqu'un qui, avant d'agir, se demande pourquoi il agit. Même si c'est très rapide, en général, ça se fait. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de se diriger selon des règles. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement la maîtrise de soi. Et c'est vrai que l'autorité des parents, l'intervention des parents, conduit l'enfant à intérioriser un certain rapport à lui-même. Ce rapport-là de réflexivité. Je suis quelqu'un qui est capable de répondre de ses actes. Je sais pourquoi j'agis. À tel point, ils le savent très bien d'ailleurs, qu'en général, quand on leur dit pourquoi tu as fait ça, ils disent je sais pas, j'ai pété les plombs. Donc ils savent bien que agir, c'est avoir décidé de faire quelque chose. Donc, ce que transmettent les parents, c'est une des choses, à mon avis, les plus importantes, qu'on n'ose pas dire, mais c'est le rapport à la règle, hein, caractéristique de tout être humain, ou le sens de l'obligation. Je fais référence là à un livre un peu trapu d'un philosophe, Bruno Bernardi, qui s'appelle « Le sens de l'obligation ». Et moi, j'ai sauté sur ce livre quand je l'ai vu sortir, parce qu'on ne cesse de parler de démocratie, de la loi, de participation, de tout ça, l'élaboration de la loi. Mais la notion de l'obligation, personne ne sait comment, d'où elle vient, comment elle se forge, comment elle se transmet. Et si on n'a pas le sens de l'obligation... la loi n'a aucun sens. Et j'étais très contente parce que ce Bruno Bernardi ne travaille pas du tout, il fait de la philosophie politique, il ne travaille pas du tout dans l'éducation, et il a fait tout un bouquin sur cette notion d'obligation, que j'aborde un peu dans mon chapitre sur l'éducation aussi, parce que je trouve que c'est une notion fondamentale. Mais si vous réfléchissez bien, c'est dans la famille que ça se transmet. Et comme disent les enseignants, quand les gamins arrivent à l'école à 3 ans, c'est presque trop tard. Ça se transmet ou ça ne se transmet pas. Chaque fois que je dis ça se transmet dans ce topo, il faut ajouter dans votre tête ou ça ne se transmet pas. Et dans ce cas-là, je crois vraiment qu'on peut dire que ça ne se transmet pas. Parce que c'est devenu contradictoire avec un autre dogme, alors lui, beaucoup plus puissant que celui que Bourdieu dénonçait, c'est le dogme de l'adhérence à soi-même, l'authenticité, sois toi-même. Donc le sens de l'obligation, le sens de la réflexivité, c'est assez peu compatible avec une idée d'authenticité au sens où c'est moi, je suis comme ça, je m'exprime comme je veux, sois toi-même, etc. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui ne se transmet, on va dire plus ou pas, j'aime pas le plus parce que c'est pas définitif, qui a du mal à se transmettre, disons. Bon, je vais passer un peu vite parce que je sens que je vais être très longue sur la transmission des techniques et des savoir-faire. Ça, c'est aussi très, très exploré, justement parce qu'il y a toute l'ethnologie qui s'intéresse aux transmissions dans les sociétés orales, traditionnelles, les connaissances nécessaires pour survivre et tout, les interdits, les valeurs du groupe. Tout ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la morale, hein, et des manières de faire. Mais on voit bien que il y a des choses qui passent. Alors l'exemple le plus parlant, même s'il est éculé, c'est l'exemple de Peggy, hein, qui raconte comment il regardait sa grand-mère, le grand poète, philosophe Charles Peggy, fils de milieu très populaire, qui voyait sa grand-mère rempaillant une chaise et qui dit « Je devais devenir un enfant modèle pour le travail, ainsi je ressemblerais à ma grand-mère qui avait tant travaillé et qui en avait le corps tout cassé. » Alors effectivement, Peggy n'est pas devenu rempailleur de chaises, mais il a transféré cette observation sur la minutie de son écriture qu'il polit et repolit sans cesse, selon ses propres mots. Donc vous voyez, encore un transfert, mais qui passe par une transmission originelle et qui a quelque chose à voir avec le sens du travail bien fait. C'est pas seulement le savoir-faire, c'est le sens du travail et du travail bien fait. Et qu'il a appris en regardant travailler sa grand-mère sur ses chaises. Voilà, c'est encore quelque chose qui est repris par Bourdieu pour dire, alors on en parlait en aparté avec l'un d'entre vous, dans Les Héritiers, c'est ce que Bourdieu a fait de meilleur à mon avis, c'est la critique de ce qu'il appelle l'idéologie du don. C'est-à-dire de l'héritage, la transformation de l'héritage, de cet héritage-là, en espèce de don qui serait donné, attribué à certains et pas à d'autres. Qui fait que, comme les enseignants, comme moi et comme beaucoup d'entre vous, sont des gens qui ont réussi dans certains savoir-faire intellectuels, ils pensent que ça leur est venu du ciel, hein, c'est un don qu'ils ont reçu, peut-être de leurs parents, plus sûrement de la Providence, et puis qu'ils ne peuvent pas transmettre les éléments qui leur ont permis de réussir. Ce que Bourdieu appelle l'idéologie charismatique, hein, c'est-à-dire c'est la grâce. Le charisme, c'est la grâce. J'ai reçu la grâce, alors je ne peux pas vous dire comment j'ai fait. Alors effectivement, alors ça se traduit dans les universités. Moi, j'étais à la fac quand ils sortaient ça, et c'était tellement vrai. On va dans un cours, c'est pour ça que j'ai une allergie aux bibliographies maintenant. On vous donne des bibliographies de 20 pages. Vous êtes un petit étudiant de 18 ans, vous dites, je fais quoi avec ça? Effectivement, le prof, il les a peut-être lus, les 100 livres qu'il met dans sa bibliographie sur son sujet. Mais l'étudiant qui démarre en philosophie ou en sociologie, il commence par où? Par la lettre A, là, et puis... l'idée de Bourdieu qu'il a formulée après, en intervenant d'ailleurs dans les réformes de l'enseignement, en disant qu'il fallait développer la méthodologie du travail intellectuel, transmettre ses savoir-faire, etc., c'est que ce prof-là est un prof odieux, et qui fait mal son métier. Il devrait, alors moi je mets des petits astérisques sur les livres, les moins chers d'abord, puis ceux les plus accessibles et tout. On essaye au moins de dire si vous intéressez à ça, lisez ci, là, ou lisez ci. On peut faire des efforts, mais faire une dissertation par exemple, moi j'ai jamais rencontré un prof qui me dise voilà comment on fait une dissertation. Hein. Et les élèves sont toujours dans le noir complet, mais par contre ben, j'ai eu l'agrégation, il n'y a pas de problème, hein. Donc vous devez aussi y arriver comme moi. Voilà, donc je crois qu'il faut pas... Il y a beaucoup de choses désagréables dans les thèses de Bourdieu, mais il y a des choses très importantes sur ces transmissions implicites. Hein. Alors, les derniers points sur lesquels je vais aller vite, je dis toujours que je vais aller vite, mais j'ai l'impression que je suis trop longue. Tu m'arrêtes quand c'est...
Que 4 heures.
Je m'arrête à 4 heures.
4h10. 4h10, hein, ça va. Encore 25 minutes.
Oui, mais c'est de la faute de tes éditeurs qui me demandent des choses très longues, qui ne rentrent pas dans le cadre d'une conférence, hein, c'est sûr.
C'est alors, la faute à quelqu'un d'autre.
Il y a des domaines qui sont très explorés. Je vous le donne pour que vous puissiez aller voir. Et là, ce sont des articles, en plus, le plus souvent. Je les ai apportés, ceux-là. Ce sont ce qu'on appelle les transmissions culturelles. Ça, alors vraiment, vous savez pourquoi c'est exploré? Tout simplement, c'est parce que il y a une clientèle et donc il y a des contrats de recherche sur ces questions-là. Donc tous les ans, on a en France des enquêtes sur les pratiques culturelles des jeunes et on a des comparaisons entre les pratiques culturelles des adultes et les pratiques culturelles des jeunes. Donc sur les transmissions culturelles, les transmissions politiques aussi, a fortiori. Et on a des enquêtes à Sciences Po, ils se régalent avec ça et ils ont des contrats parce que on veut savoir effectivement si les enfants votent comme leurs parents. Hein, donc c'est là, il y a ce qu'il faut. Alors je peux vous donner quelques noms. Il y a Sylvie Octobre qui publie dans la Revue française de sociologie un exemple d'un titre: tel parent, tel enfant, point d'interrogation, une approche de la transmission culturelle. Vous avez dénommé Olivier Galland aussi, les évolutions de la transmission culturelle autour des espaces et des réseaux d'appartenance. Vous avez ceux-là, je ne les ai pas apportés, mais c'est passionnant. Dans les caisses d'allocation familiale, ils font des choses intéressantes sur les transmissions de patrimoine. Et c'est très intéressant aussi au niveau de la volonté de transmission. Et c'est là qu'on peut dire, vous me croyez si je vous l'affirme, même si on pense que les familles ne transmettent plus, vous pouvez savoir qu'elles transmettent énormément leur patrimoine. Et donc quand on touche à l'impôt sur les successions, là on a des réactions. Et il y a des travaux très intéressants. Je ferai l'effort de, si ça vous intéresse, hein, de les mettre sur un papier, parce que ces gens-là ne sont pas des gens qui font juste une observation. Hein. Ils voient qu'il y a des changements de société et sociétaux, comme on dit maintenant, à travers ces transmissions. Est-ce qu'on transmet à ses enfants, à ses petits-enfants ou à d'autres encore? Il y a des transmissions qui ont à voir avec des transmissions culturelles aussi à travers le patrimoine. Donc, ces transmissions, elles sont étudiées. La transmission de la religion aussi. Alors là, il y a la transmission de la religion. J'ai trouvé un très bon article de Daniel Hervieux-Léger, sociologue des religions, dans un numéro de Sciences Humaines qui s'appelle « Transmettre ». Je vais vous dire quand même ce qu'elle raconte parce que ça c'est intéressant. Sur les adhésions politiques, les pratiques culturelles, les goûts esthétiques, c'est à peu près les trois grands domaines. Je vais vous décevoir, mais je peux vous dire que tous ces articles disent que les résultats sont contrastés. Donc en gros, les parents transmettent et ne transmettent pas. Les familles transmettent et ne transmettent pas. Alors, ils transmettent, de manière générale, on a le sentiment qu'ils transmettent encore beaucoup. Simplement, il y a des choix des jeunes qui sont, qui sont limités à certaines périodes de la vie. C'est-à-dire que dans une phase d'adolescence prolongée, il y a un peu prise de distance avec la culture transmise par les parents, en matière de musique par exemple. Et puis après, on arrive à 30 ans, on se case, on se calme, on fait des enfants et on retrouve les bonnes pratiques familiales qu'on avait connues. Donc c'est pour ça que c'est contrasté, parce que c'est très difficile d'avoir des choses qui vous disent non, il y a une rupture de la transmission, ça ne se transmet plus, etc. Sur le plan politique, c'est pareil, contrairement à ce qu'on croirait. Les enfants de famille, en gros, votant à droite, votent à droite. Les enfants de famille votant à gauche, votent à gauche. En gros, ça se transmet avec des petits cas particuliers, etc. Alors, sur les valeurs, par contre, il y a un changement très net des valeurs entre les générations d'aujourd'hui et les générations des années 70. Mais, alors, ça va être mon dernier point. Il y a une hypothèse qui est quand même ces changements-là auraient très davantage à des changements culturels généraux qu'à des changements dans la transmission. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a vécu ce que certains sociologues appellent la transition culturelle, la transition des valeurs, et qui tourne autour des années 70-80, on voit un peu ce qui s'est passé là, qui opère un énorme remaniement qui expliquerait que les valeurs aient vraiment changé aujourd'hui par rapport à celles des années avant 70. Mais vous allez voir pourquoi ce n'est pas une rupture dans la transmission au sens propre du terme, parce que même les générations d'avant ont changé dans leurs valeurs. Hein, c'est un changement global. Je vais finir avec ça. Donc là-dessus, pas d'informations très très pertinentes, encore qu'elles sont intéressantes, en particulier sur la croyance religieuse. Hein. Parce que, comme dit Hervieux Léger, au principe de la croyance religieuse, il y a quand même la croyance dans la continuité de la lignée, des témoins, etc., au sein de laquelle on transmet. On pourrait penser que les familles qui ont une adhésion religieuse forte transmettent délibérément beaucoup plus fortement. Eh bien non, bizarrement, c'est le grand étonnement de la lecture des travaux. À la lecture des travaux de Hervieux Léger, les familles croyantes semblent avoir renoncé à transmettre. Un sondage montre qu'aujourd'hui, à 4% seulement, les parents retiennent la foi religieuse parmi les qualités importantes à encourager chez les enfants. Ce ne signifie pas que les parents en question soient étrangers à toute croyance, mais la croyance religieuse est devenue à leurs yeux une affaire de choix personnel. Et elle n'est pas nécessairement associée à l'obligation de transmettre. Vous voyez, poindre ce que je voudrais dire pour finir mon exposé, c'est qu'il y a vraiment une transformation, pas seulement dans la transmission, mais il y a dans la conception que nous avons de l'acte de transmettre. Le thème du droit au choix, ça c'est un vieux léger, c'est pas moi, laissé aux enfants, leur permet couramment de justifier leur refus de transmettre aux parents, explicite ou implicite, d'agir eux-mêmes comme agents de transmission religieuse. Ce thème fait écho au souhait exprimé par les jeunes de pouvoir choisir leur religion, s'ils jugent nécessaire d'en avoir une, en fonction de l'affinité qu'ils ressentent avec telle ou telle tradition. Dans ce domaine, plus que dans les autres, la capacité de l'individu à choisir l'orientation qu'il donne à sa vie tend à prendre le pas sur la fidélité à l'héritage reçu. Et c'est vrai des générations adultes. Alors, dernier point dans ces transmissions... Je passe au troisième type de transmission, sociale et cognitive. Alors, c'est celui-là, c'est pour ça que je ne voudrais pas le brader, parce que c'est le plus important pour moi, parce qu'il est le moins exploré et le plus crucial dans ses rapports avec les apprentissages scolaires en particulier. Alors, effectivement, ce que transmet la famille, là, ce n'est pas un scoop, hein, c'est la langue. Bien sûr, tous les enfants apprennent à parler, mais il faut distinguer, comme on l'a appris avec les sociolinguistes, le fait de parler et la façon de parler, et repérer les compétences intellectuelles développées par la pratique du langage, quelles qu'en soient les modalités. Et les pratiques langagières constituent une transmission diffuse, donc que les sociolinguistes ont étudié depuis les années 70, je vous renvoie à Bernstein, Leboeuf, Lautrey aussi, mais aussi une transmission délibérée, organisée et ciblée. C'est-à-dire que dans les familles, il y a des interactions langagières entre parents et enfants qui préparent à la conceptualisation, à l'abstraction, à l'imagination. Ça, si vous observez comment les parents parlent à leurs enfants, c'est presque évident. Donc, c'est pas à délibérer au sens où ils ne sont pas dits. Hein, je vais le reprendre quand il emploie un mot pour un autre, etc. Mais ce sont des parents qui sont sensibles à cette dimension du langage qui n'est pas seulement l'expression de ses besoins ou de ses affects, mais qui est la conceptualisation, l'échange d'idées, la compréhension, etc. Et ils insistent là-dessus. L'accès au registre des significations par les interactions langagières, mais aussi l'accès à l'imaginaire, à la créativité par les récits et les contes. Et tout ce qui est de cet ordre-là, pour moi, mais j'ai, pour dire ça, c'est pas seulement mon intuition, j'ai interrogé énormément d'enseignants de la petite école maternelle. Ils vous disent qu'il n'y a pas photo entre un enfant à qui on raconte des histoires à la maison et un enfant à qui on ne raconte pas. On a beau essayer de le faire à l'école. Comme à l'école, il n'y a pas les interactions langagières qui vont avec, il y a un gap énorme qui se fait. Les enfants qui, depuis la naissance, parce que maintenant on parle aux enfants, bien sûr, même avant la naissance, ont des interactions langagières, sont habitués à la conceptualisation, à la symbolisation, tout simplement. La fonction symbolique, qui est la clé de tous les apprentissages, évidemment. Et, par ailleurs, à ce qu'on appelle la fonction créative, l'imagination. Raconter des histoires aux enfants, jouer avec les mots, pratiquer l'ironie, l'humour, etc. Ce que les enfants aiment beaucoup, d'ailleurs. Mais c'est une entrée en matière pour toute la dimension culturelle et scientifique. Qui donne un grand rôle à l'imagination et à la créativité, qui est offerte, transmise par les familles, il faut le savoir. Je vous cite quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Pierre Terraille, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « De l'inégalité scolaire », qui est un collègue, sociologue de l'éducation. Il dit ceci, « S'abstenir d'examiner attentivement l'intervention concrète des parents » prêterait à croire que le capital culturel et le rapport au langage ne se transmettent que par osmose, de façon quasi impalpable, au fil des interactions quotidiennes et sans intention particulière, à l'insu donc des intéressés eux-mêmes. Ce n'est cependant qu'un aspect du processus. Une part des interactions quotidiennes est délibérément orientée dès la naissance de l'enfant vers la transmission culturelle et langagière. Et ça, s'il y a une transmission qui est toujours là et qui résiste bien, c'est celle-là. Alors à tous ces bons sociologues qui s'étonnent de voir, malgré tous les efforts des discriminations positives et tout, aboutir à un accroissement des inégalités scolaires, j'ai envie de dire, mais allez voir un petit peu ce qui se passe du côté des familles. Le problème, c'est que quand on a dit ça, on n'a pas la solution, si ce n'est celle de Platon, le communisme intégral, on sort les enfants à la naissance, on les fait vivre en dehors des familles, là on est sûr qu'il n'y aura pas d'inégalité de transmission. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de solutions par rapport à ça. L'autre type de transmission sociale et cognitive, je vous l'ai dit, c'est en parlant d'Annette Jarreau, plus généralement, c'est la transmission du goût pour la culture, pour l'effort intellectuel, mais aussi du respect des institutions. Le fait que le monde adulte est un monde d'institutions. Ça s'apprend dans la famille. C'est d'ailleurs très proche de la notion d'obligation. Mais il y a des choses établies dans une société qui sont établies pour faire en sorte que la vie collective soit possible. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que l'institution ne l'autorise pas. Mais ça s'apprend dans les familles. Il y a des familles qui développent, au contraire, une espèce de libertarisme total, totalement étranger au sens de l'institution et au sens de ce que c'est qu'être adulte et d'avoir des responsabilités. Donc, j'insiste pas parce que c'est pourtant très très important, mais il faut savoir que cette découverte de l'institution, en particulier de l'institution scolaire, mais aussi de la justice, de la police, de toutes les institutions sociales, c'est quelque chose qui est présent dans la famille et qui passe aussi par la présence dans le groupe familial du travail des parents, du sens du travail, parce que le travail, ça se fait dans des institutions également. Si les enfants sont totalement étrangers à ça, et c'est le cas souvent, surtout dans les familles monoparentales avec des femmes qui ne travaillent pas, l'institution est très très éloignée. Donc relativement à ça, il y a la transmission d'un projet de vie sociale pour l'enfant, les attentes des familles en termes de projet de vie et de réussite scolaire. Donc, par rapport aux institutions, le sens des institutions, je les redis là. J'ai trouvé un texte d'un d'un grand académicien des sciences qui s'appelle Laurent Laforgue, qui est une médaille Fields de mathématiques, et qui essaie d'expliquer sa réussite scolaire brillante. Il a fait tout, normal sup, des découvertes mathématiques, etc., en disant qu'il doit tout à ses parents. Et que ses parents, quand ils revenaient de l'école en se plaignant de ses profs et tout ça, lui ont toujours dit « tes profs ont toujours raison ». Le petit gamin qui arrive, on lui dit « ah, gna, gna. » Et donc il y avait un respect de l'institution scolaire dans sa famille qui fait qu'il a été amené à respecter ses profs et à avoir une adhésion au travail qui était demandé grâce à l'investissement des parents. Voilà, je passe un petit peu sur la chose, un dernier point sur la relation maître-élève, qui est, bon, que puisque je vais écrire le texte, je développerai. Alors, dernier point, y a-t-il aujourd'hui une rupture de la transmission ? Difficile de le dire, parce que la transmission est effectivement apparemment déniée, refusée. On l'a vu pour la religion. Elle s'oppose à l'idéal libertaire, on va dire, hein, d'authenticité. On n'a rien à imposer à nos enfants. On ne va pas leur transmettre des choses qu'on a nous-mêmes reçues de nos parents. Ils ont la liberté de choix. Il y a donc un retrait significatif des parents quant à la volonté de transmettre. Liberté de choix, toute appartenance ou affiliation est vue comme un obstacle à la liberté et la créativité. La transmission est rejetée pour son incompatibilité avec le présupposé individualiste de la démocratie. On revient encore à ce fameux individualisme. L'individu est fils de ses œuvres. Il n'est pas fils de la tradition ni de ses parents. Elle est refusée aussi, ça c'est quand même intéressant, en tant que facteur d'inégalité, au même titre que la transmission des biens, la transmission des privilèges et des places sociales. Aucune hiérarchie entre les êtres n'est admissible. Or, assumer la transmission, cela suppose la différence des générations et la supériorité de celles qui précèdent. Ça, tout ça au conditionnel, c'est ce qui est dit, ce qu'on entend. Et l'ironie de l'histoire, c'est que les mêmes qui disent justement refuser la transmission, on le voit dans la réalité, transmettent le plus. Le fameux patrimoine, dont ils disent que c'est quand même une source d'inégalité injustifiable, et puis le patrimoine culturel et langagier, etc. Mais donc on est dans une situation un peu schizophrénique où on est contre la transmission, et la transmission se fait on nous dit, j'allais dire, comment on dit, implicitement.
En stummelings, ici à Bruxelles, on dit en stummelings.
Donc, je disais, un signe de la persistance de la volonté de transmettre, ce sont les attitudes en matière de succession. La volonté de transmettre, c'est bien, est toujours là. Alors, il y a une typologie des mobiles de la transmission qui est intéressante, dont d'échange, dont altruiste, dont hédoniste, pour qu'ils profitent du plaisir. Vous savez, on transmet à ses enfants, non pas pour qu'ils aient le même capital que nous, l'héritage, mais pour qu'ils puissent profiter de la vie. Donc l'idéal hédoniste, il va se réintégrer dans cette transmission. Donc le lien de transmission, pour finir, entre les générations, est plus complexe qu'il n'y paraît. Quelques éléments d'interprétation pour terminer. La génération qui devient parent dans les années 70, celle du baby boom et des 30 glorieuses, est la première qui arrive au monde avec l'héritage d'un crime sans précédent, d'une horreur sans précédent. On y a fait allusion tout à l'heure. Les exterminations de masse, espèce de secret collectif impossible à symboliser et donc à transmettre. Il se produit, ou il se produirait, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est une hypothèse, un renversement dans le rapport au passé. Cette génération va élever ses enfants avec une espèce de nécessité du passé, faisons table rase. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être ponctuel, c'est peut-être lié à une certaine situation historique. Quand on efface le passé, que l'avenir s'obscurcit, le présent devient l'horizon indépassable. C'est ce qu'a très bien dit un historien qui s'appelle François Hartog, pardon. On observe un changement du régime d'historicité, qui a, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le présentisme vulgairement. Pas de passé, plus d'avenir, on s'intéresse au présent. Là, on ne transmet plus. J'ai bien insisté sur le fait que la transmission était dans le temps. effectivement, ce changement de régime a d'immenses répercussions sur la transmission. Et l'un des symptômes, c'est l'invocation éperdue du devoir de mémoire, justement, qui est bien le signe qu'on a du mal avec notre passé. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un phénomène très momentané. On va voir. Donc on ne peut pas trancher sur cette fameuse rupture dans la transmission. Le deuxième point, quand même, pour interpréter la chose, c'est qu'il faut voir de plus près la mutation dans les familles. La mutation est immense, là, on l'a déjà travaillé en conditions d'éducation, je vous y renvoie. La famille n'a plus pour objectif d'armer les enfants pour le futur et pour la vie sociale. Elle se préoccupe de l'épanouissement au présent. Tout ce qui est de l'ordre du collectif et de la vie sociale et disparaît du monde familial, donc du premier monde des enfants, même s'ils le rencontrent après, forcément, quand ils cherchent du boulot, quand ils sont à l'école même. Et ce qui tend à s'affaiblir, à disparaître, ce sont les formes de transmission qui reposaient sur l'imposition des normes, des valeurs, léguées par la tradition. Mais cette transmission récusée continue à opérer souterrainement. L'un de ces effets est que cet individu, alors là je reprends des expressions de Riesman dans La foule solitaire, déterminé de l'intérieur, applique des schémas de pensée et d'action dont il croit être l'inventeur et qu'il est d'autant plus sensible aux propositions de son environnement ou à l'adoption de schémas de pensée et de comportement transmis par les médias, les magazines, les réseaux entre pairs. Ce que Riesman appelle le peer group, extra-déterminé. En revanche, donc, l'individu qui est acculé à se déterminer de l'intérieur, sans référence à une tradition, va se croire l'inventeur de ses actes, et en fait, il va être beaucoup plus tributaire de tout ce qui est autour. Ça donne, je crois que vous avez reçu Dominique Pasquier, La tyrannie de la majorité. Et là, on revient à l'histoire des pères. En revanche, ce qui résiste, d'autant plus que la transmission explicite s'efface, ce sont les imprégnations transmises dans la première enfance en matière d'ouverture au monde, d'application dans la vie collective ou au contraire de retrait des pratiques langagières. Ce qui expliquerait d'ailleurs les observations de ces sociologues qui ne vont pas jusque-là, parce que ça demande une réflexion un peu sur le long terme, qu'à un certain moment, les enfants soient effectivement très, on va dire, victimes de cette tyrannie de la majorité, très sensibles au groupe des pères, aux musiques qu'ils entendent à la radio, etc., mais qui reviennent par la suite aux transmissions implicites de leur enfance et qui retrouvent une certaine manière de continuité avec leur milieu familial. Et puis, une troisième hypothèse, c'est celle d'Engelhardt, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit un livre qui est très intéressant. Engelhardt, c'est un Américain qui fait régulièrement des enquêtes sur les transformations de valeurs et la transition culturelle en 70. Il dit qu'il y a eu une révolution, un remaniement global des références collectives, des ruptures de mémoire, une réorganisation de valeurs dans un sens post-matérialiste dans les années 70, et on revient à la première hypothèse, et là on a une véritable fracture. C'est pas la même hypothèse, c'est pas ce passé affreux, mais c'est une espèce de révolution silencieuse certes, mais une révolution dans les valeurs qui s'observerait dans ce qui nous apparaît comme une espèce de fracture qui va donner un déploiement sans précédent aux réseaux de communication de masse et aux médias, avec une importance extrêmement forte des moyens de communication, autre type de transmission des nouvelles générations. Communication d'égal à égal, échange des savoirs, appartenance choisie et non reçue, lien électif et affectif. C'est donc l'idée d'une communication horizontale qui prendrait le pas aujourd'hui sur ces transmissions. Alors, un des indices, c'est la notion de diffusion en réseau, qu'on trouve déjà chez Deleuze et Guattari dans les années 70, C'est la transmission horizontale. Moi, je l'ai trouvé aussi chez Ricoeur, dans le parcours de la reconnaissance. C'est la priorité donnée à l'échange. Hein. Je suis, tu es, tu me reconnais. Dans le parcours de la reconnaissance, il dit la transmission est la façon dont le rapport de mutualité s'étale dans le temps des générations. Vous voyez, il renverse le raisonnement que j'ai fait au début. Il dit, ce qui est premier, c'est le rapport de pair à pair, hein, l'échange, le réseau, la reconnaissance. Et, bon, on peut bien parler de transmission, mais c'est le report sur dans le temps. Donc, la priorité est donnée à l'échange horizontal, au rapport de mutualité, au réseau, par rapport à la relation généalogique, qui serait la relation verticale. Alors, je voulais terminer par une petite phrase d'Anne Muxel qui est assez amusante, en disant que, en plus de tout cela, ces transformations donc de cette révolution silencieuse, il y a une rapidité des évolutions techniques et technologiques qui fait que les parents sont souvent dépassés par l'habileté de leurs enfants dans l'usage de tous ces nouveaux médias. Et qu'ils apprennent à travers eux. Alors là, ce n'est pas la rupture, ce serait un renversement dans l'ordre de la transmission. Et plus largement, les parents finissent par adopter les goûts, les manières de faire, les visions du monde de leurs enfants. Dis-moi comment tu fais sur Facebook, c'est sympa, on se fait des copains, ah oui, on peut mettre, etc. Et elle termine, elle dit, et moi, aujourd'hui, je vote, comme puisqu'elle travaille sur aussi les transmissions politiques, je vote comme mes enfants. On assiste à une sorte d'inversion du sens de la transmission. Les parents découvrent les valeurs, les nouvelles valeurs à travers leurs enfants et subissent une transmission inversée. Accélération du temps, aplatissement des statuts et des rôles, sentiment effectivement d'un grand changement dans l'ordre de la transmission dont on ne sait pas ce que ça va devenir, mais je pense que le plus important c'est de continuer à observer tout ce qui se passe en matière de transmission implicite, parce que je pense que c'est une source pour nos réflexions sur les difficultés d'enseigner et d'apprendre aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre patience.